Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
OK, donc tu te demandes pourquoi Desjardins offre des transactions de courtage gratuites.
En fait, je pose la question en l'air et j'ai la réponse, Patrick. Évidemment, ça n'a pas de l'air sexy comme ça de parler de courtage direct. Je dis courtage, c'est quoi ça? C'est quand vous achetez des actions ou des fonds négociés en bourse directement, c'est-à-dire vous avez un compte ouvert, mais vous ne passez pas par un conseiller, vous faites de l'autogestion. À une époque, on vous chargeait des frais de transaction, et donc 5 ou 10 $ par transaction. En 2019, il y a une compagnie américaine, Schwab, qui a dit « Nous autres, là, on n'en met plus de frais de commission. » Et après ça, il y a eu d'autres joueurs comme Robinhood qui ont dit « On n'en met pas de commission. » Évidemment, Patrick, aux États-Unis, ils se font un peu avoir parce que des fois, il y a ce qu'on appelle des frais, disons, de référence. C'est-à-dire que le client sur Robinhood, il achète une action, mais il ne sait pas, mais il ne paye pas le juste prix de l'action parce que Robinhood est rémunéré par l'intermédiaire qui fait la transaction pour faire la transaction. Alors, derrière la gratuité, il y a un vrai coût. Au Canada, c'est interdit. Donc, la Banque nationale a dit, nous autres, on n'en met plus de commission. Puis là, Desjardins vient de suivre cette semaine. Puis là, on se dit, mais comment ils vont faire leur argent? Évidemment, selon les articles publiés aujourd'hui, ils perdraient de 1 à 4 de leurs bénéfices. Mais les grandes banques canadiennes voient plus loin que ça, Patrick. Ils se disent, attends une minute, là. C'est qui la clientèle qui est cheap pour 5$ par transaction? Tu sais, mettons que tu achètes pour 10 000$ d'action, payer 5$, ça ne te dérange pas vraiment. Alors, quelle clientèle tu vas aller chercher et garder pour 5$ par transaction? Les jeunes.
Ah!
Et les jeunes...
Eux, ça les intéresse.
Eux autres, ça les intéresse de faire plein de transactions gratuites. Tu sais, quand tu fais des transactions de 300-400$, tu aimes ça pour payer 5-10$. Donc, tu les attires. Tu vas faire de l'argent un peu en convertissant des devises d'un compte canadien, en ayant des frais d'administration annuels, mais tu perds ton revenu de commission. Mais, Patrick, le plan est plus large que ça.
Le plan.
Le plan, ben oui, il y a toujours un plan. C'est écrit dans le plan. Tu sais que ça revient à l'histoire de Jean Chrétien. C'est dans le programme.
Oui, mais est-ce que tu es en train de faire une pub subliminale pour M. O'Toole qui a un plan pour tout?
Non, je vais te parler du plan des institutions financières. C'est facile. Patrick, tu as 18 ans, tu es plein de naïveté, tu veux investir ton argent. Déjà, en partant, tu es un bon client par la banque parce que, aïe aïe, tu es prêt à investir. Mais une fois que tu as investi dans le compte de courtage direct, puis tu t'es ouvert un compte à la caisse ou à la Banque nationale, et puis que tu déposes ta paye, ça, tu prends ta carte de crédit, ta marge de crédit. Tu rencontres une fille ou un gars, tu développes une petite marge ou un prêt hypothécaire. Là, tu te retrouves finalement que tes comptes sont prêts automatiquement dans l'institution financière, tes paiements de compte. Et là, tu te rends compte que changer d'institution financière, c'est aussi pire que de divorcer. Et donc, tu ne divorces pas, donc tu restes avec ton institution financière. Donc, le courtage direct devient une forme d'appât pour attirer les jeunes à rester dans une institution et après ça, leur vendre une maison sur 25 ans, tu comprends? Tout okay. Ça est là.
Tu veux nous parler de type d'emploi pour nos enfants? À quoi on peut rêver?
Oui, bien, pas rêver ou pas rêver, Patrick, parce que moi, je m'inquiète. Est-ce que tu t'inquiètes pour tes enfants des fois? Moi,
ben, j'en ai un.
T'en as un?
Puis m'inquiète pour lui, oui.
Oui, bon. Là, tu te dis, bon, quel domaine d'études il choisit? Et quand on était jeune, on disait, à l'université. Ça, c'était réglé de même, là. Tu allais à l'université à l'UQAM dans n'importe quel programme, champ gauche, puis t'avais un job. MC, t'es étudiant en quoi, toi?
Sciences politiques.
Tu vois, un bac chômage, puis il y a quand même un job.
Ben, va donc, je suis de bon.
mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est différent. Alors, nos jeunes vont être exposés à deux affaires. Des jobs dits d'avenir, entre guillemets, sont complètement opposés. Un, les emplois qui sont protégés, ceux qui sont protégés, disons, de l'avenir d'automatisation, c'est-à-dire un métier technique qui est sur mesure. Coiffeur, électricien, plombier. T'sais, ils vont pas dire un jour, il y a un robot qui va rentrer dans un building construit en 1951 pour refaire la plomberie puis comprendre tout ce qu'il faut faire. Ça va toujours coûter moins cher de payer un ouvrier expérimenté et qualifié. Et donc, ça, c'est protégé. De l'autre côté, on dit aux universitaires, faut que tu rentres dans l'intelligence artificielle, que tu deviennes un programmeur. Même là, on va être remplacé un peu. Mais tu deviens quelqu'un qui va développer une plus-value avancée ou technique fort. Mais entre les deux, là, puis tous les emplois, comme ceux qui ont été annoncés aujourd'hui par Amazon, 15 000 emplois dans un entrepôt de distribution, bien ça, c'est comme des emplois temporaires qui vont être remplacés. Amazon, dans le monde, il y a des robots qui font les colis, là, qui transportent les colis. Donc, toute la manutention est automatisée. Donc, il y a des emplois qui vont disparaître. Alors, tu regardes tes enfants et qui disent « J'aime tel type de champ d'expertise. » Tu ne veux pas briser son rêve, mais il y a des emplois universitaires techniques actuels qui sont l'équivalent d'étudier en typographie, tu sais, placer des lettres dans l'imprimerie, pour dans 20 ans.
Mais regarde, je vais apporter un bémol.
Ben oui, il faut que tu apportes des bémols parce que tu es là pour ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est ce discours-là, je le comprends, mais avec une nuance. C'est-à-dire que c'est pas vrai que les gens étudient dans un domaine puis font toute leur vie là-dedans.
T'as raison. Moins en moins, d'ailleurs.
J'en suis l'exemple. Ben Cégin en est un exemple.
Oui, et il y en a plein. Tu vois, je connais des gens qui ont étudié dans plein de domaines. Puis quand on parle de réformer les programmes puis de donner des incitatifs aux universités pour des programmes plus payants, entre guillemets, je comprends. Mais il y a un peu...
Il y a l'utilitarisme là-dedans
qui fait peur. T'sais, la vie, c'est pas du Tetris non plus.
Tu sais, Pierre-Yves, Jean-Luc Mongrain avait un bac en théologie.
Là. Mais là, tu parles de tous les gens des médias, finalement, qui ont une bien plus grosse job qu'ils auraient eu s'ils avaient travaillé dans leur domaine.
Non, mais... Tant qu'à ça, la comptabilité, ça va être des robots qui vont le faire.
Mais
c'est un logiciel qui fait mon rapport d'impôt.
C'est déjà le cas. Il y a une portion de la comptabilité qui est tenue de livre, qui est déjà tout informatisé. D'ailleurs, moi-même, je rentre dans un logiciel qui s'appelle Xero, où il y en a d'autres, c'est un équivalent, puis ça s'automatise tranquillement pas vite. Et la programmation du logiciel ou la supervision devient le nouvel emploi. Mais t'as raison, on va aller plus loin. Il y a des pré-jobs, même dans des jobs qui sont payants aujourd'hui, qui n'existeront plus. Puis ça, il n'y a aucun problème avec ça, mais ça fait peur. Je te donne un exemple, Patrick. En 1998, je sais que tu étais déjà adulte, mais moi, j'étais un jeune adulte. Mmh. Et puis, je rentre à Polytechnique pour programmer en C++. Après ça, le Visual C++, donc les objets déjà créés et embarqués. Mmh. Et maintenant, les logiciels, c'est apprendre à utiliser un logiciel qui programme déjà le code. Et maintenant, plus tard, ça va être l'intelligence artificielle qui risque de coder la base d'un code. Et donc, Patrick, ce que j'en ai de te dire, c'est que on peut pas prendre dans une époque une certitude puis l'extrapoler. Donc, le message que tu nous envoies, c'est de rester ouvert à la formation continue et aux opportunités divergentes de la vie. Mais ce qu'on veut dire, c'est que ça fait peur. Moi, j'ai peur pour mes enfants, pour vrai.
Mais c'est le propre des parents, Pierre-Yves, de s'inquiéter pour leurs enfants.
Oui, moi, je suis pragmatique. En même temps, Patrick, ils vont avoir une diversité aussi parce que ceux qui vont faire beaucoup d'argent, c'est ceux qui vont vendre une valeur très exportable dans diverses cultures et langages. Et ceux qui vont faire du service de proximité. C'est comme si les deux vont se créer des valeurs intéressantes, puis tout le monde entre les deux va être comme exposé à un risque, mais comme on a tout le temps, mais qui va être comme une épée de Damoclès au-dessus de leur cerveau. Là, je suis en train de philosopher un peu, mais je trouve que c'est plus épeurant d'être un jeune adulte en 2021 qu'être un jeune adulte en 1986.
Mais Pierre-Yves, pourquoi tu t'inquiètes pour tes enfants? Ils vont hériter un jour?
Mais je sais pas si tu as suivi un peu l'actualité, mais les gens de ce monde qui ont beaucoup d'argent, ce qui n'est pas mon cas,
ben oui, c'est ton cas.
Ils donnent pas à leurs enfants. Que ce soit Warren Buffett ou Bill Gates, ils en donnent, là, mais ils en éliminent la grande partie parce qu'ils disent c'est trop de pouvoir. Puis il y a même des gens... Écoute, il y a des gens qui se font frapper dessus. C'est qui? Ah oui, t'as-tu vu le gars qui joue du James Bond? C'est quoi, Daniel Craig?
Ouais.
Lui, il a dit qu'il voulait pas léguer d'argent à ses enfants. Moi, je l'ai trouvé sans cœur. Mais il dit que c'est comme, tu sais, c'est trop, leur donner trop de chance.
Ouais, mais c'était le fils de Bill Gates, c'est quand même pas dans le trouble.
Non, c'était le fils de Mark Zuckerberg, t'es pas dans le trouble, même s'il en donne. C'était le fils de n'importe quelle famille à Westmont, assis sur une maison de 5 millions non imposable, t'es pas dans le trouble. Mais s'inquiéter pour ses enfants et leur avenir, c'est naturel.
Oui, c'est normal.
Pierre-Yves, j'ai un conseil pour toi. Là,
c'est de m'y faire.
Faut que tu t'y fasses, mais l'autre affaire, c'est commence à leur lire des histoires en mandarin pour qu'ils soient prêts pour le marché chinois.
Le nouveau monde.
Ouais, peut-être.
Hein, ou dans Hindi.
Mais tu vois, j'ai vu le film de Louis Morissette. Là.
Oui.
Puis ça m'a convaincu que j'étais dans la bonne track, c'est-à-dire de ne pas être comme ça.
C'est de la fiction. Hein,
oui, c'est de la fiction, mais regarde autour de toi, Patrick. Moi, j'ai vu ça. C'est des parents qui donnent plus d'exercices à leurs enfants qu'ils ont eux-mêmes, puis qui essaient de les développer pour réussir ce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi. Tu sais, des fois, ton enfant, il n'a pas les rêves que tu as. Faut que tu te calmes un peu.
Salut. À demain, Pierre-Yves. 17h, presque 37.